présenté ce soir par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. 28 ans de réclusion criminelle pour Bilal Taghi, le djihadiste qui avait tenté d'assassiner deux gardiens de prison en 2016 a échappé à la perpétuité, mais une peine de sûreté accompagne cette condamnation. Florence Turm est au palais de justice de Paris. En France, le canal Seine-Nord-Europe verra-t-il enfin le jour prochainement? Ce projet d'infrastructure dans les cartons depuis plusieurs décennies a bénéficié aujourd'hui de la signature d'une convention de financement pour 5 milliards d'euros, précision à venir de Stéphane Robert. À l'étranger, en Algérie, nouvelle manifestation monstre aujourd'hui à l'approche d'une présidentielle dont le principe est toujours très contesté par les manifestants. Et puis l'enquête de cette édition, signée ce soir Élodie Guéguin, sur l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Un fanatique acharné à mentir, c'est ainsi que Bilal Taghi a été présenté par l'avocat général lors de ses réquisitions ce matin. Le djihadiste, qui a été reconnu coupable d'une tentative d'assassinat sur deux gardiens de prison en 2016 à Osny, dans le Val d'Oise, a finalement été condamné aujourd'hui, cet après-midi, à 28 ans de réclusion criminelle. Les juges n'ont pas suivi les réquisitions de l'avocat général qui étaient plus lourdes. Depuis le palais de justice de Paris, la correspondance de Florence Turm.
Si vous le condamnez insuffisamment, avait lancé l'avocat général, si vous tenez pour vrai ses mensonges répétés, ses pleurnicheries à l'audience, il va encore pouvoir se payer la République. Dans ce dossier, la question de la culpabilité ne se posait pas comme elle peut se poser dans d'autres procès d'assises, et c'est bien celle de la peine qui a occupé ces 3 heures de délibéré. En prononçant 28 ans de réclusion criminelle, la Cour a donc été sensible aux arguments de la défense. Qui sommes-nous pour dire que tout n'est que duplicité chez Bilal Taghi, appelé Mathieu Chavanne? Je crois que le fanatisme n'est pas un cancer incurable, que le fanatisme d'un jeune de 26 ans n'est pas irréversible. La clémence, enchaîne son confrère Xavier Nogueras, c'est juste vous demander de ne pas décider qu'il finira son existence derrière les barreaux. À l'énoncé du verdict, l'accusé n'a pas manifesté d'émotion particulière, il a simplement serré la main de ses avocats. Ces derniers mots avaient été pour remercier sa victime de lui avoir tendu la main à l'audience. Le gardien s'est encore approché de lui, une fois le procès terminé, avec ce nouveau message d'espoir. Je lui ai dit que la balle était dans son camp, qu'il avait 2 enfants à éduquer, qu'il devait se battre afin que ces 2 garçons puissent être la fierté de notre nation.
Florence Sturm. 6 ans après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge, le parquet d'Evry a requis cet après-midi un procès pour homicide et blessures involontaires à l'encontre de la SNCF et d'un cheminot. L'homme était en charge de l'inspection des voies au moment du déraillement d'un train qui avait fait 7 morts et des dizaines de blessés en juillet 2013. Au juge d'instruction désormais de se prononcer sur un éventuel procès en correctionnel. Les suites de la blessure à l'œil d'un manifestant, gilet jaune, samedi à Paris après un tir probablement d'origine policière. Un juge d'instruction a été chargé aujourd'hui de mener l'enquête dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour violence volontaire par une personne dépositaire de l'autorité publique. Suite et fin du déplacement d'Emmanuel Macron dans la Somme aujourd'hui. Après Amiens, c'est à Nesle, 60 km plus à l'est, que le chef de l'État s'est rendu cet après-midi avec un objectif précis, la signature d'une convention de financement pour le canal Seine-Nord-Europe. Ce projet a pour objectif de relier l'axe Seine à Anvers et Rotterdam, des travaux estimés à 5 milliards d'euros. Bonsoir Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Cette infrastructure est très attendue dans la région, d'autant plus attendue qu'elle l'est depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut espérer que cette signature de convention, il y a une demi-heure à peine, n'est pas un nouveau faux départ pour ce projet?
Alors, ce canal Seine-Nord-Europe, on en parle depuis 30 ou 40 ans, au point que c'était devenu un serpent de mer, ou plutôt un serpent de terre, dont on commençait à douter qu'il pourrait être un jour mis en eau. Cet après-midi, Emmanuel Macron s'est rendu avec la ministre des Transports dans la commune de Nesle, à l'est d'Amiens, vous l'avez dit, pour signer cette convention de financement de ce canal. Enfin, disent les élus du secteur, il y en a pour exactement 4 milliards 800 millions d'euros, l'État met 1 milliard au pot, la région 1 milliard également, l'Europe 2 milliards, le reste c'est pour les départements. Et selon le député UDI de la Somme, Stéphane Demilly, très impliqué dans ce dossier depuis 25 ans et jouant au téléphone tout à l'heure au moment de la signature de cette convention, c'est, dit-il, un aboutissement.
Alors on attend ce moment-là depuis tellement longtemps. Moi, ma première intervention, j'étais vice-président du conseil régional de Picardie, c'était en 1993. Vous imaginez, là ça y est, il y a quelques instants, les financeurs ont signé tous les parapheurs dans lesquels ils s'engagent donc à apporter entre guillemets leur contribution, les départements, la région, l'État, l'Union européenne. Donc le compte en banque est clairement établi pour savoir qui va payer quoi. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui c'est une journée historique et je peux vous dire que je suis le député le plus heureux de la Terre.
Ce canal doit permettre de relier par voie fluviale, vous l'avez dit, l'axe Seine et donc Paris avec les grands ports du nord de l'Europe, Anvers et plus loin Rotterdam. Pour ça, il faut creuser un fossé de 107 km entre Compiègne dans l'Oise et Aubenchelobac dans le département du Nord. Selon le plan de financement signé cet après-midi, les travaux pourraient débuter en 2022 et la mise en eau pourrait être effectuée en 2028. À ce stade, restons tout de même prudents. Alain Juppé avait annoncé un début des travaux imminent en 1995. Même chose pour Nicolas Sarkozy en 2011. Et même chose pour François Hollande encore en 2017.
Patience. Merci Stéphane Robert. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des professionnels de justice à la grève le 5 décembre prochain pour protester contre la réforme des retraites. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'organisation estime que cette réforme aura pour conséquence d'augmenter les cotisations retraite pour des pensions moindres et non garanties. Quant aux agriculteurs, eux, ils feront monter la pression dès mercredi pour attirer l'attention sur les problèmes de leur profession. Ils annoncent vouloir bloquer les accès routiers vers Paris. La FNSEA et ses rejetons des jeunes agriculteurs se mobiliseront pour demander aux distributeurs et industriels de permettre le retour à un revenu décent. 1000 tracteurs devraient converger vers la capitale dans le cadre de cette mobilisation nationale. La réorganisation annoncée de la lutte contre les phénomènes et dérives sectaires continue à inquiéter les associations actives dans le domaine en France. La Miviludes, on le sait, va disparaître en janvier prochain. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires va en fait être rattachée au ministère de l'Intérieur, ce qui provoque notamment l'inquiétude de la présidente du Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Charline Delporte, cette présidente, a remis ce matin à Lille au préfet du Nord une lettre à l'attention d'Emmanuel Macron.
Une lettre intitulée « Sauvons la Miviludes » car cette mission fondée en 2002 pour analyser les dérives sectaires va disparaître en tout cas sous sa forme actuelle. Elle fonctionnait jusqu'à présent de façon relativement autonome. Elle va à partir de l'année prochaine être rattachée au ministère de l'Intérieur, ce qui inquiète Charline Delporte qui est engagée depuis une trentaine d'années contre les dérives sectaires.
On n'aura plus du tout les mêmes services. On n'aura plus l'éducation nationale, la santé, je ne sais pas comment on va faire. On aurait quelques personnes qui seraient donc à l'intérieur. Mais attendez, le ministère de l'Intérieur, monsieur, il me semble quand même que c'est la répression. La répression, c'est pas ce qu'était la vocation de notre mission interministérielle. Depuis 20 ans, on avait une cellule départementale sur les dérives sectaires. Et tous les ans, le préfet de chaque département nous recevait, nous, associations de terrain, et tous les représentants des ministères concernés, santé, éducation, jeunesse et sport, les impôts, le travail, il y avait là tous ces représentants et ces chefs de service des ministères. Et ensemble, on faisait une sorte de panorama des dérives sectaires et on pouvait échanger. Ça marchait bien.
Ça marchait peut-être bien, mais la mode est désormais aux économies. Fini donc la Miviludes, d'autant que la priorité du gouvernement est désormais plus la lutte, n'est désormais plus la lutte contre les dérives sectaires, mais la lutte contre l'islam intégriste.
Merci beaucoup, Antoine Marette. Nous ne voulons pas déclencher une guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur. Déclaration plutôt rare en ce moment de Xi Jinping. C'était tout à l'heure au sein même du Palais du Peuple à Pékin. Le président chinois explique être en mesure de répliquer si nécessaire aux États-Unis, alors que la menace américaine d'imposer de nouvelles sanctions aux produits chinois à partir du 15 décembre tient toujours. De son côté, Donald Trump continue à mener une politique erratique envers la Chine. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir.
Dans un contexte de tension notamment lié au mouvement pro-démocratie à Hong Kong, Donald Trump est allé jusqu'à se vanter cet après-midi d'avoir évité un bain de sang dans la cité-État.
Oui, une affirmation lancée sur Fox News au détour d'une interview consacrée pour l'essentiel à des sujets de politique intérieure américaine. Interrogé par téléphone dans l'émission Fox and Friends, le président américain se félicite d'avoir rééquilibré les échanges commerciaux avec la Chine que ses prédécesseurs, dit-il, ont laissé dériver. Et surtout, il assure, en effet, avoir mis la guerre commerciale avec Pékin dans la balance pour convaincre le dirigeant chinois de ne pas intervenir militairement dans le but de mater aider la révolte à Hong Kong. Sans moi, Hong Kong aurait été anéanti en 14 minutes, affirme Donald Trump. Si Jinping a 1 million de soldats en position à l'extérieur de Hong Kong, ils n'y vont pas uniquement parce que je le lui ai demandé. Vous feriez une grave erreur d'intervenir, cela aurait un effet terriblement négatif sur l'accord commercial, aurait poursuivi le numéro 1 américain à l'adresse de son homologue chinois. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'adoption par le Congrès américain d'une résolution soutenant les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Le Congrès a aussi menacé de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique. Interrogé sur le veto que Trump pourrait mettre à cette résolution favorable aux manifestants pro-démocratie, eh bien le président américain dit que les États-Unis doivent soutenir Hong Kong, mais il ajoute qu'il soutient aussi le président chinois.
Merci Bertrand Galichet. Et Donald Trump, lors de cet échange avec Fox News, a également annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de l'an prochain avec Mike Pence pour colistier. En Irak, 3 manifestants ont été tués à Bagdad lors d'un nouveau vendredi de manifestation. En près de 2 mois de contestation, plus de 340 personnes ont été tuées, quasiment toutes des manifestants, dans des affrontements qui se concentrent désormais dans le centre de Bagdad. Vendredi mouvementé également au Liban, où des dizaines de milliers de Libanais ont célébré dans une ferveur citoyenne le 76e anniversaire de l'indépendance de leur pays, clamant leur soif d'une nouvelle indépendance en pleine contestation inédite contre la classe dirigeante. Drapeau libanais au vent, de nombreuses parades civiles ont convergé vers la place des Martyrs dans le centre-ville de Beyrouth. Le reportage d'Aurélien Colli.
Des milliers de personnes cet après-midi sur la place des Martyrs, ambiance festive, bon enfant, on est venu en famille ou entre amis pour se réapproprier une fête célébrée jusqu'à présent par une classe politique dont les Libanais ne veulent plus. On veut dire au gouvernement que l'indépendance, elle vient du peuple, on restera mobilisés, nous sommes plus forts que les autorités, explique Louloua, petite trentaine, fière d'avoir repris la rue à un état déliquescent dont l'armée parade en principe en ce jour de fête nationale. Même sentiment pour Dana, expatriée à l'étranger pour s'assurer un meilleur avenir, comme des centaines de milliers de Libanais. Un Liban sans corruption, avec de vraies élections démocratiques où nos droits sont garantis, un Liban sans parti politique, sans confessionnalisme, voilà ce que veut cette quinquagénaire, rentrer au pays pour participer à cet automne libanais. Une révolte qui va s'inscrire dans la durée, estime de son côté Rabi.
Ça fait longtemps que la société libanaise, elle est juste en train de subir la classe politique. Aujourd'hui, les gens sont là pour dire que la fête de l'indépendance, c'est le sentiment de faire partie de ce pays, penser vers le futur, l'évolution de ce pays. Et la classe politique est en train de politiser ce mouvement parce qu'il est contre eux.
Avec un succès mesuré jusqu'à présent, puisqu'après 5 semaines de contestation, les Libanais sont toujours dans la rue à exiger un nouveau gouvernement, d'experts, dépolitisés, pour des réformes urgentes qui empêcheraient au pays la faillite économique et financière.
Reportage d'Aurélien Colli à Beyrouth. 40e vendredi de mobilisation en Algérie, alors que la campagne électorale pour la présidentielle, prévue le 12 décembre prochain, a débuté. C'était dimanche dernier, dans une atmosphère tendue. Hier, lors d'une marche nocturne, 80 personnes ont été interpellées. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis depuis maintenant 9 mois, le mouvement populaire était de nouveau dans la rue. Le mot d'ordre est on ne peut plus clair désormais. Il s'agit de s'opposer clairement à la tenue du scrutin dans moins de 3 semaines. Olivier Poujade.
Une nouvelle vague de manifestants, difficile à chiffrer mais toujours fidèle à ce rituel contestataire du vendredi. Une foule compacte, un mélange de générations venant de tous les quartiers d'Alger. La Casbah, Bab El Oued, tous les cortèges convergents vers la grande poste d'Alger. C'est une campagne de répression, pas une campagne électorale. Voilà un des multiples slogans que l'on pouvait entendre dans les rues d'Alger cet après-midi. Des manifestants qui n'hésitent plus à cibler le pouvoir algérien, y compris le nouvel homme fort depuis la chute du président Bouteflika, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah.
On n'ira jamais voter, on ne supporte plus tous ces voleurs. Il n'y aura pas d'élection. On est sorti pour dire à tous que ce sont des traîtres qui ont vendu ce pays. Il faut qu'ils tombent tous.
Les manifestants ne veulent pas du scrutin du 12 décembre. Ils ne veulent pas des candidats choisis par le pouvoir. Benflis, Tebboune, Merhoubi, Bengrina et Belaïd. 5 candidats dont 3 anciens ministres. Les corrompus ne sont pas recyclables, pouvait-on lire cet après-midi sur certaines pancartes brandies par des manifestants dans la foule. Ailleurs dans le pays, les portes de certaines assemblées populaires communales ont été soudées pour empêcher l'organisation d'élections présidentielles.
Olivier Poujade. En Allemagne, la présidente des conservateurs de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a-t-elle temporairement repris la main? Présentée comme étant en difficulté depuis quelques mois, dans un contexte électoral, il est vrai, difficile pour son parti, AKK, souvent décrite comme la dauphine possible, probable, d'Angela Merkel, a posé une question de confiance aux représentants de la CDU, réunis en congrès à Leipzig. Elle a même menacé de démissionner, Ludovic Piétenu.
Elle dessine l'avenir de l'Allemagne. Elle explique comment elle voit les choses en tant que chef. C'est un discours de fond très programmatique. Cela fait déjà presque 1h30 qu'elle est à la tribune. Et c'est au moment de conclure, face à ce millier de délégués de son parti, qu'Annegret Kramp-Karrenbauer évoque les critiques qui lui sont faites.
Si vous pensez que ce chemin que je veux que nous prenions ensemble n'est pas le bon, n'est pas celui qui vous convient, alors parlons-en aujourd'hui et ensuite arrêtons ces critiques dès aujourd'hui, ici et maintenant. Mais dans le cas contraire, si vous jugez que ce chemin est le bon, alors remontons nos manches ici et maintenant et commençons à travailler.
La salle se lève, les applaudissements vont durer 7 minutes. Annegret Kramp-Karrenbauer apparaît visiblement soulagée. Elle revient sur scène pour saluer les délégués, dont beaucoup doutent, non pas forcément de sa façon de conduire le parti, mais doutent à cause du climat qui règne en Allemagne, d'une coalition gouvernementale à la peine dans un pays où réapparaissent les difficultés économiques. Mais tout ne va pas si mal, disait-elle encore, pour faire taire les critiques. Après 14 ans d'Angela Merkel au pouvoir, le pays connaît par exemple le taux de chômage le plus bas de son histoire.
Ludovic Piétenu. 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France sur l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, ancien nom du Rassemblement National. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Benoît.
Alors que se poursuit le procès de l'autre affaire concernant le parti d'extrême droite, celui du financement de ses campagnes électorales, vous avez ce soir des révélations, Élodie, sur cette enquête qui met directement en cause la présidente du parti, Marine Le Pen.
Oui, il s'intéresse notamment, ces juges, à une réunion qui se serait tenue à Bruxelles après les élections européennes de 2014. Marine Le Pen aurait alors fait passer des consignes aux 23 nouveaux élus sur l'emploi de leurs assistants parlementaires. L'un de ces assistants s'est confié à nous, il a vu les eurodéputés après cette réunion. Nous avons fait lire son témoignage.
J'ai vu certains députés sortir de la salle assez surpris. D'après ce qui m'a été rapporté, Marine Le Pen venait de leur dire « Avec votre enveloppe budgétaire, vous prenez un seul collaborateur ». Les autres assistants, c'était pour le FN.
Oui, c'était pour le FN. Donc le soupçon, c'est qu'ils travaillaient pour le parti politique alors qu'ils étaient rémunérés par l'Europe. Et parmi ces assistants qui intéressent la justice, on trouve Yann Maréchal-Le Pen, la sœur de Marine Le Pen. Depuis longtemps, elle s'occupe des grandes manifestations du parti, vous savez, les congrès, les universités d'été. Or, elle a été en même temps assistante parlementaire à temps plein de l'eurodéputé Bruno Gollnisch. Nous avons fait lire un extrait de l'audition de Yann Maréchal-Le Pen par la juge.
Je ne me suis jamais rendue au Parlement européen. Je n'ai jamais travaillé sur un dossier politique européen. Je n'en ai pas les compétences et ça ne m'a jamais été demandé.
Bruno Gollnisch n'a pas pu citer un seul événement organisé pour lui par vos soins en tant qu'attaché parlementaire. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je n'ai pas organisé d'événement en particulier pour Bruno Gollnisch. Ce n'était pas mon travail.
Ce n'était pas mon travail. Alors tous les députés européens Front National ont accepté de salarier des assistants qui ne travaillaient pas pour eux, Elodie ?
Eh bien, quelques-uns auraient refusé, comme Jean-Luc Schaffhauser, et on semble comprendre pourquoi en lisant un courriel qu'il a envoyé au trésorier du Rassemblement National. Ce mail que nous avons pu consulter, il dit ceci.
Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs. Et c'est le député qui est responsable pénalement sur ses deniers, même si c'est le parti qui est bénéficiaire. Je comprends les raisons de Marine, mais on va se faire allumer car on regardera, c'est sûr, nos utilisations à la loupe avec un groupe si important.
Alors, il y aurait donc eu des réticences, mais des assistants payés par le Parlement auraient aussi travaillé sur des campagnes électorales.
Oui, alors ça, c'est ce que Gaël Nofri, qui est aujourd'hui élu à la ville de Nice, a raconté aux policiers. Il a travaillé pour le FN pendant la campagne présidentielle de 2012. Seulement, ce n'est pas avec la candidate Marine Le Pen qu'on lui aurait finalement demandé de signer son contrat, mais bien avec le député européen Jean-Marie Le Pen. Voilà ce qu'a dit ce témoin sur un procès-verbal auquel nous avons eu accès.
C'est la campagne de Marine Le Pen qui a bénéficié de ma force de travail. J'ai été rémunéré par des fonds européens alors que je travaillais comme conseiller sur la campagne présidentielle de Marine Le Pen.
Jean-Marie Le Pen a donc été mis en examen le 12 septembre pour détournement de fonds publics. Ses deux filles sont également poursuivies dans ce dossier. Je précise qu'ils n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur franceculture.fr. L'ancien garde des Sceaux Michel Mercier a été mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants d'eurodéputés du Modem. C'est une nouvelle étape pour cette enquête qui menace l'ensemble des cadres du parti centriste, dont François Bayrou. La météo, les abords de la Méditerranée en vigilance orange. Demain, pluie, inondation orange, vent fort et cru. Ailleurs, le temps sera couvert et souvent faiblement pluvieux et maussade. Les températures continueront à monter avec des minimales entre 6 et 10 degrés en général. On attend jusqu'à 19 degrés en Corse.